J'espère que j'arriverai quand même à tresser avec un minimum de fidélité et de pertinence. Donc, c'est la suite de votre série sur les lettres aux églises dans Apocalypse 2 et 3. C'est aujourd'hui la lettre à l'église de Philadelphie. Et comme toutes ces lettres, elle est adressée à une église spécifique dans sa situation qu'elle vit à ce moment-là, qui est peut-être pas la même que la nôtre. Mais comme toutes ces lettres aussi, elle se finit par une invitation que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ces églises sont invitées à toutes écouter ce que l'Esprit dit à chacune d'elles. Et nous aussi, nous sommes appelés à écouter ces paroles de l'Esprit. Donc, il y a aussi quelque chose à en tirer pour nous, ça nous concerne. Sur ces paroles, je propose d'écouter le texte, c'est donc Apocalypse 3, les versets 7 à 13. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit: voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je te donnerai les gens de la synagogue du Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, Jésus-Christ s'adresse à une église qui est petite, qui a peu de pouvoir, qui en plus manifestement fait face à de l'opposition, et puis qui doit justement se sentir faible et inefficace. Et puis, c'est aussi une des lettres de l'Apocalypse où Jésus ne fait pas de reproches, mais il reconnaît au contraire que cette église a gardé sa parole et qu'elle est restée fidèle. C'est donc pas une de ces églises prospères et opulentes qui pensent n'avoir besoin de rien, comme l'église de la Laodicée, qui vient sauf erreur dans la prochaine lettre. C'est pas non plus une église qui paraît vivante et qui en fait est morte, comme l'église de Sardes. C'est une église qui a pas l'air de grand chose, mais le fond y est. Et des fois, je pense qu'on peut se sentir un peu comme cette église. On essaye d'aimer Jésus-Christ, de lui être fidèle. Mais en même temps, on se sent peu nombreux. On se sent en minorité par rapport au monde qui nous entoure. On a l'impression que notre témoignage n'est pas écouté, n'est pas compris. On a peu d'impact. On n'arrive pas à avoir de l'effet autour de nous. On n'a pas de puissance, comme le dit Jésus. Et on peut vite se faire un complexe d'infériorité ou d'inutilité. On est là, mais on ne sert à rien. Et Jésus, là, dit que ce n'est pas ça le critère. L'important, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la réussite ou la puissance, mais c'est la fidélité à la parole de Dieu. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est vraiment fidèle à la parole du Christ ? Au verset 11, Jésus-Christ exhorte encore: garde ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne. Autrement dit, ta fidélité, c'est ce qui a vraiment de la valeur. Elle ne laisse personne douter cela. Si tu laisses les circonstances ou le découragement ou des faux enseignants ou la pression de l'époque ôter ta fidélité, alors tu perdras ce qui fait vraiment ta valeur. Mais au contraire, garde cela, et c'est cela qui garantit vraiment ta situation. Après, la persévérance dont cette lettre parle peut prendre diverses formes, mais ce qui est surtout souligné ici, c'est « Tu n'as pas renié mon nom ». C'est continuer à se réclamer de Jésus, même quand la pression nous pousserait dans un autre sens. Alors, ça ne veut pas dire que tant qu'on dit « Jésus, Jésus, tout va bien ». Il y a des passages dans l'évangile de Matthieu qui sont assez clairs là-dessus. Vous avez aussi vu dans les autres lettres que des fausses doctrines et des mauvais comportements sont quelque chose de grave. Et que d'une certaine manière, c'est aussi un reniement dans la pratique. Mais disons, ce qui est mis en avant ici, c'est que la fidélité au nom de Jésus vaut mieux que la puissance et que les résultats qu'on pourrait se voir et qu'on pourrait chercher. Et puis, face à ce sentiment de faiblesse et d'impuissance de l'Église, eh bien, Jésus va aussi répondre en se présentant comme celui qui contrôle les choses. C'est celui qui ouvre, et après cela, plus personne ne peut fermer. Et c'est celui que, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Autrement dit, c'est celui qui contrôle vraiment qui entre ou n'entre pas dans son royaume. Et personne ne peut s'opposer à ses décisions. Et puis en ce qui concerne cette église de Philadelphie, Jésus annonce justement qu'il va lui donner une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Puis cette expression de porte ouverte, on la voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, en particulier quand c'est Paul qui parle. Et il dit cette expression dans le sens d'une ouverture dans l'annonce de la bonne nouvelle, dans le sens d'avoir des gens qui sont prêts à écouter et à recevoir l'évangile. Et donc, parce que cette église est restée fidèle, et bien Jésus promet qu'il va aussi donner une efficacité à son témoignage. Et c'est aussi ce qu'on voit au verset 9 qu'il va falloir détailler un tout petit peu. J'ai pas regardé le numéro de verset sur ma feuille, c'était très net. Et voilà. Quand il dit « Je te donnerai les gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. » Alors d'abord, la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. De qui est-ce qu'il s'agit? Alors, très certainement, il s'agit en fait des juifs non chrétiens dans cette région, qui étaient apparemment très bien implantés, et puis relativement prospères, et puis qui, comme un peu partout à l'époque, s'opposaient aux chrétiens, s'opposaient au message du Christ, en disant que, voilà, que c'était un faux prophète, un faux messie, que, ouais, et puis que c'était eux, le vrai peuple de Dieu. Et puis, donc, en disant qu'ils s'appellent juifs, mais qu'ils ne le sont pas, Jésus affirme à Jean le fait qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le véritable accomplissement de toutes les promesses faites à Israël. Et puis que donc, ceux qui appartiennent vraiment à Israël dans le temps du Nouveau Testament, c'est ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens, en termes de leurs origines et de leur ethnie. Et c'est aussi ce que Paul explique assez longuement dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 9 à 11. Entre autres, dans Romains 9, verset 6, il dit « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Et donc, en s'opposant à Christ, et en fait, ces Juifs sortent du peuple de Dieu. Ils sont retranchés du projet de Dieu de se créer un peuple qui lui soit fidèle. Dans les mots de Paul, ils sont retranchés à cause de leur incrédulité, ce qui est dit dans Romains 11 au verset 20. Mais pour Paul, comme pour nous, c'est pas une raison de se vanter ou d'être fier et de se dire qu'on vaut tellement mieux que ces juifs incrédules. Au contraire, c'est une situation qui est tragique. C'est que ceux qui avaient reçu les promesses, ceux pour qui Christ était venu en premier lieu, eh ben ils s'en sont coupés en ne croyant pas. Et c'est, ouais, bah c'est d'une manière incompréhensible et d'une manière bah, quelque chose qui est, ouais, bah, qui est vraiment triste. Et puis, ouais, on a pas de raison d'être content de ça, mais au contraire, ben, comme Paul le fait aussi, on doit avoir à cœur que, ouais, bah, justement que ces juifs puissent finalement reconnaître leur Messie. Et puis justement, dans notre passage, ça s'arrête pas à cette description sur la situation, à cette qualification de synagogue de Satan, mais Jésus dit à l'église de Philadelphie qu'il va leur donner des gens de cette synagogue de Satan. Quand il parle de les donner à l'église, ben ça veut dire justement que certaines de ces personnes vont reconnaître Jésus-Christ et rejoindre la communauté chrétienne. Et puis, c'est aussi ce qu'il dit en ajoutant, ils viendront se prosterner à tes pieds et ils connaîtront que je t'ai aimé. En particulier, l'idée de se prosterner aux pieds du peuple de Dieu, eh ben, elle est reprise des prophéties d'Ésaïe. Pour ceux qui prennent des notes, on peut voir ça dans Ésaïe 45, 14, 49, 23 ou 60, 14. Et puis, là, il est question des nations païennes qui se prosternent aux pieds d'Israël et puis qui reconnaissent qu'Israël est le vrai Dieu. Et donc, en utilisant cette expression-là comme ça, ben, l'Apocalypse montre un drôle de retournement de situation. C'est-à-dire que ben maintenant, c'est des Juifs qui se pensent israélites, mais qui en fait sont sortis du projet de Dieu en ne reconnaissant pas Christ, eh ben, qui vont reconnaître que le Dieu d'Israël agit au travers de l'Église, cette Église qui est formée aussi de païens, et puis qui, en reconnaissant ça, eh ben, vont revenir à Dieu. Donc, c'est plus la situation où Israël, en tant que nation, sert de témoignage, et c'est les païens qui reconnaissent, qui viennent à Dieu au travers d'elle, mais au contraire, c'est l'Église des païens qui sert de témoignage pour qu'Israël puisse revenir à Dieu. Et c'est de nouveau assez semblable à la logique de Paul qui dit en Romains 11, versets 13 à 14, « Je vous le dis à vous, les non-juifs. Pour autant que je suis l'apôtre des non-juifs, moi, je glorifie mon ministère afin, si possible, de provoquer la jalousie parmi les gens de ma propre chair et d'en sauver quelques-uns. » Donc, ce que Paul dit là, c'est que lui, il annonce la parole aux non-juifs, mais son objectif en faisant ça, c'est que la réussite de cet évangile auprès des non-juifs ben, serve à provoquer la jalousie des juifs, ben, que les juifs reconnaissent ce qui nous a été promis, c'est en train de se passer auprès de ces païens, et puis nous, on veut ça aussi, et puis que par là, ils puissent ben, venir à Jésus-Christ et reconnaître que tout ce qu'ils ont cherché se trouve en Jésus-Christ. Et puis donc, pour l'église de Philadelphie, cette perspective est encourageante. Ben, vos adversaires juifs qui nient votre légitimité comme peuple de Dieu, eh ben, ils vont aussi, certains d'entre eux, ben, reconnaître qu'en fait, Dieu est au milieu de vous, qu'il vous a aimé et qu'il agit par vous. Et donc, ben, ça désamorce et retourne justement l'attaque des juifs qui disaient c'est pas des juifs, c'est pas le peuple de Dieu, ils respectent pas la loi, c'est pas les vrais. Alors bon, maintenant, tout ça s'est dit dans un contexte où vraisemblablement c'était justement les juifs qui formaient un gros front d'opposition face à l'église. Et puis pour nous, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment le cas pour nous. Donc, je pense que dans notre situation, eh ben, on peut séparer un petit peu deux aspects de ce qui est dit là. Un aspect par rapport justement aux Juifs et un aspect par rapport à ceux qui s'opposent à nous. Du point de vue des Juifs, ben, Il y a toujours cette promesse que certains vont se tourner vers Christ et que Dieu va les donner à l'Église pour qu'ils trouvent Jésus-Christ. Et ben, je crois que c'est une promesse qu'il faut prendre et recevoir et qu'il faut prier pour qu'elle s'accomplisse. Prier pour que les Juifs trouvent ce qui leur a été promis, trouvent le vrai sens de la révélation qui leur a été donnée, à savoir Jésus-Christ. Et puis pour nous, dans nos situations, lorsqu'on fait face à des oppositions, de l'hostilité ou de la fermeture de la part des gens, eh bien, la promesse c'est que si nous restons fidèles, eh bien, Dieu est assez puissant pour agir et pour nous donner, même certains de nos opposants les plus farouches, pour qu'eux aussi reconnaissent le Christ, reconnaissent l'action de Dieu au milieu de nous, et puis se tournent vers Dieu pour être sauvés. Puis, en plus de ces promesses par rapport au témoignage, de ces promesses d'efficacité, Jésus ajoute aussi d'autres promesses à cette petite église fidèle. Il dit que lorsque toute l'épreuve viendra sur toute la terre habitée, ou peut-être sur tout l'Empire romain, parce que le mot utilisé peut avoir un petit peu ces deux sens, enfin, aussi parce que l'Empire romain était tellement grand et tellement vaste qu'il considérait facilement que le monde s'arrêtait à leurs frontières. Ben, lorsque l'épreuve viendra sur tout ce territoire, ben, cette église sera gardée. Bon, donc le mot d'épreuve est souvent utilisé pour la persécution qui vient contre les chrétiens, mais pas seulement. Donc ça se peut que par là, cette lettre annonce une vague de persécution dans l'Empire romain, ou bien un temps de détresse qui va toucher tout le monde, famine, tremblement de terre ou guerre, etc. Et c'est vrai qu'on voit dans la suite de l'Apocalypse pas mal de ces catastrophes qui touchent un peu tout le monde. Donc, c'est pas très sûr si l'Épître parle de persécution ou parle de d'autres problèmes. Mais en tout cas, Jésus promet de garder cette Église au milieu de tout ça. Rappelez à nouveau, est-ce que garder signifie que ça ne va pas leur arriver puis que ça ne va rien leur faire? Ou bien est-ce que ça signifie qu'il va garder leur foi et leur permettre de continuer à persévérer et justement de ne pas renoncer, de ne pas s'éloigner de Dieu? C'est pas forcément très clair. C'est vrai que dans la perspective de l'Apocalypse, d'une manière générale, on voit plutôt la perspective de la persévérance au milieu de l'épreuve, malgré le fait que ça fait mal, que la perspective de puisque vous êtes chrétien, ça vous arrive pas. Alors. Bon, peut-être que l'église de Philadelphie est un cas à part, mais donc en tout cas, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller dans le sens garder du dommage le pire qui pourrait se produire, c'est-à-dire s'éloigner de Christ, plutôt que de dire on va rien passer de tous les problèmes. Et puis, justement, dans cette perspective, il dit aussi que au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui va continuer à confesser le nom du Christ jusqu'au bout, eh ben, Jésus promet d'en faire une colonne dans le temple de Dieu. Donc, c'est certainement pas à prendre littéralement dans le sens où, quand on voit la fin de l'Apocalypse, on nous dit qu'il n'y a pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem, donc voilà, il ne peut pas y avoir une colonne dans le temple qui n'existe pas, mais ça signifie être dans la présence de Dieu pour toujours, sans coupure, sans pouvoir en être retiré. Et puis, avoir le nom de Dieu inscrit sur lui, ça signifie aussi lui appartenir avec certitude. Et puis, quand il est question de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, on voit aussi à la fin de l'Apocalypse que cette Nouvelle Jérusalem, ben, c'est la nouvelle réalité que Dieu instaure après avoir établi définitivement son règne, après avoir vaincu toutes les forces du mal. Et ben, il met en place la Nouvelle Jérusalem, qui est la réalité éternelle de son peuple de Dieu, qui est son peuple de Dieu dans l'éternité et dans sa présence. Et donc, en parlant d'inscrire le nom de la Nouvelle Jérusalem sur cette église, eh ben, il garantit aussi son appartenance au peuple de Dieu pour l'éternité. Et c'est des belles assurances qui sont aussi les nôtres si on persévère dans la fidélité. Donc, au moment d'arriver vers la conclusion, peut-être rappeler que on ne peut pas forcément dire et ça serait un peu facile. Oui, cette église de Philadelphie, c'est nous qui sommes, qui avons cette fidélité et qui, ouais, et à qui Jésus ne trouve pas de reproche à faire. C'est plutôt des questions à se poser. Est-ce que ce qu'il dit là s'applique à nous? Est-ce que on est dans cette situation, ou bien est-ce qu'il y a des choses à travailler? Mais en même temps, ben, on peut quand même vraiment se rappeler de ce que Jésus communique à cette petite et faible église. Donc ce qu'il communique, c'est d'une part la fidélité à ma parole et à mon nom, c'est ce qui importe vraiment. Garde cela, et puis je suis content de toi. Et puis, c'est l'essentiel. Et ensuite, il dit, même parmi tes adversaires, je te donnerai des gens qui croiront en moi pour te rejoindre. C'est moi qui rends ton témoignage efficace. Et ça dépend de moi, et puis pas de ta puissance ou de ta performance. Ensuite, garde ta fidélité jusqu'au bout, et puis tu auras ta place dans la présence de Dieu, dans le monde à venir, dans le peuple racheté par Dieu. Et finalement, c'est moi qui te donne de rester fidèle dans l'épreuve. Et c'est moi qui ai la maîtrise de la situation, quoi qu'il arrive. Que ça soit notre assurance tout au long de nos vies et des semaines qui viennent. Amen.